Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Le Baloutchistan iranien est situé à l'extrême sud-est du pays. Il est limitrophe du Pakistan et de l'Afghanistan et donc une terre de trafic, notamment de l'opium. La province est aujourd'hui l'une des moins développées, des plus désolées et des plus pauvres d'Iran. Pour y remédier, le gouvernement central a tenté de nouveaux plans de développement comme l'implantation d'une zone franche dans le port de Chabahar. On parle également de l'ouverture prochaine d'une usine d'assemblage d'automobiles. Mais ce qui préoccupe les autorités iraniennes, c'est le regain de tension après la fermeture en février d'un point de passage avec le Pakistan. En cause, le contrôle du trafic de pétrole. Les gardiens de la révolution ont ouvert le feu sur des contrebandiers qui tentaient de le traverser. En réaction, des manifestations ont éclaté dans la ville de Saravan, provoquant des affrontements devant le bureau du gouverneur. Les réseaux de téléphonie mobile et les réseaux sociaux ont été coupés. Nous faisons le point avec Stéphane Dudoignon, chargé de recherche au CNRS et spécialiste de l'Asie centrale. Une émission que vous pouvez réécouter sur notre site www.rfi.fr ou en podcast sur notre application Pure Radio. Bonjour Stéphane Dudoignon.
Bonjour Éric Bataillon.
En 2009, vous avez édité un livre, Voyage au pays des Baloutches, consacré au Baloutchistan d'Iran. Vous invitiez alors le voyageur à décliner les offres d'éventuels chaperons, de l'escorter une Kalachnikov sous le bras, de ne pas emprunter les routes seul de nuit à bord d'un rutilant 4x4 et de ne s'intéresser aux affaires religieuses régionales qu'avec circonspection. Est-ce à dire, Stéphane Dudoignon, que cette région iranienne est particulièrement dangereuse ?
Dangereuse, je ne sais pas, il est vrai que la pauvreté récurrente de la région, qui est une ancienne marche impériale de l'Iran dans laquelle très peu d'investissements ont été faits ces dernières décennies, malgré parfois les appels du gouvernement actuel, reste caractérisée par un certain nombre de pratiques comme la contrebande ou l'enlèvement contre rançon. Les années 2000 en particulier avaient connu un certain nombre d'enlèvements de touristes étrangers, mais aussi de touristes iraniens, qui étaient enlevés au carrefour des principales villes et libérés ensuite contre rançon, d'où l'exhorte que je m'étais permis de faire dans les annexes de mon petit bouquin. Région dangereuse, la République islamique a ensuite, à partir de 2007-2008, à la suite justement de ces enlèvements en série, instauré des règles de visite par les touristes et les étrangers de manière générale, en imposant une escorte policière qui était aux frais des visiteurs, ce qui avait pour but en fait essentiellement de dissuader la visite dans la région. La République islamique n'aimant pas beaucoup de manière générale qu'on s'intéresse à ce qui se passe chez elle, c'est sûr, tout à fait généralement, mais surtout dans les régions frontières, que ce soit à l'ouest au Kurdistan ou dans l'est, en particulier donc au Sistan-Baloutchistan, qui sont des régions sous tension, en particulier depuis les années 2000, où les observateurs donc internationaux sont en général pas vraiment les bienvenus.
Alors justement, cette éventuelle dangerosité, est-ce sa situation, la situation très décentrée de cette région par rapport au cœur du pays, Téhéran, qui en serait éventuellement la cause, ou alors plutôt la proximité avec l'Afghanistan et le Pakistan voisin?
Oui, le Baloutchistan a une situation très particulière par rapport à l'Iran. C'est une région qui a été réintroduite politiquement dans le système politique iranien à une date relativement récente, après de longues périodes de plus ou moins large autonomie, à partir de 1928 seulement que le Sistan-Baloutchistan est militairement vraiment réintégré à l'Iran. Et c'est seulement à partir des années 2000, hein, on l'a vu en particulier avec ces périodes marquées par les enlèvements contre rançon dans les années 2000, que la République islamique a commencé à vraiment quadriller et contrôler militairement le territoire. C'est une région qui est caractérisée depuis les années 1920 par une présence militaire extrêmement importante, mais aussi par le fait que démographiquement, économiquement, c'est une région qui continue d'être dans une très grande mesure orientée non pas à l'ouest vers l'Iran et le plateau iranien, mais vers l'est, vers le Pakistan, à travers en particulier des mouvements d'émigration économique massive qui ont commencé à la fin du 19e siècle vers le port de Karachi tel que les Britanniques le développaient à partir des années 1880-90. Les docks du port de Karachi sont aujourd'hui encore constitués d'une population ouvrière essentiellement baloutche originaire d'Iran. On les appelle d'ailleurs à Karachi les Sarbazi, du nom de Sarbaz, qui est une petite ville du sud du Baloutchistan iranien, donc qui ont véritablement peuplé le port de Karachi depuis la fin du 19e. Et cette orientation vers l'est, le fait que le Sistan-Baloutchistan était une région d'Iran où les échanges avaient lieu en roupie jusque dans les années 1970, fait évidemment problème pour la République islamique d'Iran, qui est un régime très centralisateur et qui a cherché et continue de chercher justement à établir son contrôle le plus étroit possible sur des flux qui essentiellement partent du Sistan de Baloutchistan vers l'Est, principalement vers le Pakistan et dans une moindre mesure vers l'Afghanistan.
Et sur le plan des paysages, par exemple, vous décrivez une succession de déserts, de palmeraies, vous y voyez des mosquées de style Bollywood que vous décrivez dans votre livre. Comment est cette région du Baloutchistan iranien ?
C'est une région qui est marquée par de très très grands contrastes, qui sont tout à fait frappants quand on vient du plateau iranien, entre des zones extrêmement désertiques, comme le Sarhad, donc la région de frontière au nord de la région, qui est une région de haut plateau extrêmement aride, et le sud, qui lui est tout à fait ponctué d'oasis, avec des côtes très connues pour leurs dattraies et leurs bananeraies extrêmement gigantesques. Et donc avec un système économique très complexe qui est caractérisé par une association très très étroite entre le nomadisme pastoral et une agriculture, parfois une agriculture maraîchère d'ailleurs, orientée vers les marchés urbains, soit de l'Asie du Sud, soit du plateau continental iranien avec des villes comme Kerman, Yazd et Mashhad par exemple. Donc une économie qui a été très très vite dans l'histoire caractérisée par une combinaison de spécialisations extrêmement différentes et par la maîtrise de secteurs d'activité très très différents entre le nomadisme pastoral et l'agriculture maraîchère. Et c'est précisément ce qui caractérise, et c'est la connectivité que suppose justement cette articulation qui caractérise le monde balouche dans son ensemble et qui lui a permis peut-être ce déploiement à partir des très grandes migrations de la fin du 19e siècle vers le port de Karachi et à partir des années 1960 vers les Émirats du Golfe, où les marins baloutches aujourd'hui contrôlent une part tout à fait substantielle du commerce de contrebande régional et en particulier du commerce de contrebande qu'on peut observer entre les Émirats arabes unis par exemple ou le Qatar dans une moindre mesure et l'Iran lui-même. À mon avis, c'est à la fois cette orientation multiple mais surtout vers l'Est et cette hyperconnectivité qui pose problème pour la République islamique dans la mesure où il s'agit de secteurs qu'elle éprouve énormément de mal à contrôler.
Stéphane Dudoignon, fin février, des troubles secouent la région. Les passes d'Aran ferment une route vers le Pakistan. La population locale proteste. Pourquoi ?
Elle proteste depuis, à vrai dire, assez longtemps, même si cela a rarement attiré les spotlights des médias internationaux. Elle proteste depuis la fin des années 2000, depuis les tentatives à l'époque de la présidence Ahmadinejad pour contrôler d'une manière générale, le commerce entre le Sistan de Baloutchistan et l'international, pour contrôler en particulier un commerce de la contrebande, notamment d'essence, qui est volé dans les très grandes largeurs, dans les stations-service de la région, pour être ensuite revendu en territoire pakistanais. C'est une activité de contrebande qui est récurrente dans la région. On le rappelle, c'est une région très très peu développée et qui dispose encore d'extrêmement peu d'infrastructures industrielles, routières, etc. C'est une région aussi où les périodes de chute brutale du cours international du rial, donc la monnaie iranienne, suscitent des booms, des envolées de la contrebande qui, évidemment, dans ces périodes, comme celles qu'on connaît depuis deux ans, où le rial a perdu une part extrêmement importante de sa valeur par rapport à l'euro ou au dollar, ce sont des périodes donc pendant lesquelles on assiste à des explosions de ce commerce de la contrebande. Ce qui est reproché aujourd'hui par les Balouches, en particulier donc aux gardiens de la Révolution, c'est d'avoir à plusieurs reprises tenté de canaliser, de limiter, voire d'annihiler cette importante activité en termes de ressources pour la région, et notamment depuis maintenant un certain nombre de mois, d'avoir mis en place un système de cartes qu'on appelle le plan Razak, de cartes en fait qui autorise un nombre limité de familles, donc de contrebandiers de la région, à exercer leur activité, ce qui est en fait quelque part une reconnaissance assez paradoxale, voire une légalisation de la contrebande elle-même, et en même temps ça introduit un clientélisme évidemment des gardiens de la Révolution vis-à-vis d'un certain nombre de familles triées sur le volet, qui en désavantagent beaucoup d'autres et qui donc créent localement énormément de mécomptes et donc de mécontentement.
Mais est-ce que les Baloutches localement voient le pouvoir central de Téhéran comme un pouvoir colonial ? Et si oui, pourquoi ?
Et oui, certainement, j'abonde tout à fait dans votre sens, et pas seulement. C'est-à-dire que non seulement les Baloutches dénoncent depuis maintenant de très nombreuses années une situation qui est perçue comme coloniale, hein, c'est le terme persan « estemari » qui est utilisé, donc c'est tout à fait explicite, y compris parfois dans la presse locale et régionale, dans le discours d'un certain nombre de notables locaux et régionaux, mais c'est une situation qui est également dénoncée, une situation coloniale, donc « estemari » en persan, qui est dénoncée par un certain nombre d'intellectuels iraniens de Téhéran eux-mêmes, depuis les années maintenant 1960, et en particulier par toute une partie de la gauche iranienne, qu'elle soit marxiste ou non, où on a eu des écrivains donc téhéranais qui, depuis les années 50-60, ont beaucoup écrit non seulement sur le Sistan, Baloutchistan, mais sur toutes les périphéries de l'Iran et sur le monde kurde également en particulier, à l'ouest ou sur le monde turkmène au nord, comme justement survivance d'une période impériale et coloniale et d'un fait colonial, d'une inégalité de traitement en fait, avec notamment une ségrégation spatiale, économique, sociale, politique, qui est vécue aujourd'hui par de très nombreux intellectuels iraniens de la métropole elle-même comme inique et survivance paradoxale, plus de 40 ans après la révolution, de la période monarchique. Donc on est là au cœur véritablement d'une question qui, malgré l'extrême marginalité du Baloutchistan et de la société balouche pour l'Iran moderne et contemporain, une question qui est au centre de ce qu'est aujourd'hui la philosophie politique de l'Iran et en particulier la philosophie politique de ce qu'est ou devrait être la République islamique. Cette question balouche alimentant aujourd'hui des débats extrêmement importants dans toute l'intelligentsia iranienne sur la République islamique comme finalement continuation des régimes monarchiques qui l'ont précédé.
Orient Hebdo sur RFI.
Stéphane Dudoignon, peut-on dire qu'en ce moment, il y a un conflit entre une guérilla baloutche et les Pasdaran, les gardiens de la Révolution, qui, eux, n'obéissent qu'aux mollahs de Téhéran?
On a eu en plusieurs phases depuis le début des années 2000. Il est vrai que la République islamique a fait face à plusieurs mouvements de guérilla successifs, très différents d'ailleurs les uns des autres. De 2002 à 2010, on a eu une guérilla locale qui s'appelait le Jundullah, donc l'armée de Dieu, qui était basé pour l'essentiel au Pakistan et qui, en 2010, a pratiquement cessé d'exister lorsque ses leaders successifs ont été arrêtés, essentiellement avec le soutien des services secrets pakistanais, donc qui ont, sous pression de Téhéran, ont retiré leur soutien à cette guérilla. Depuis 2010, on a vu l'expansion d'un système, d'une guérilla, d'un groupe un peu plus spectral, un peu plus fantomatique, qui s'appelle le Jaish al-Adl, donc l'armée de la justice, qui semble beaucoup mieux armé, mieux équipé que le Jundullah, qui s'équipait essentiellement d'anciennes pétoires des conflits afghans sur les marchés d'Afghanistan. Le Jaish al-Adl semble à la fois mieux équipé, mieux armé, mais en même temps beaucoup plus fantomatique sociologiquement, et beaucoup plus étranger aux réalités sociologiques du Sistan, Baloutchistan, que l'était le Jundullah à son époque. Je pense que l'insistance que mettent les autorités de Téhéran à dénoncer ce groupe du Jaish al-Adl dans les montées, les périodes de violence publique dans la région vise essentiellement à cacher des mouvements sociaux, ce à quoi on a affaire depuis le 27 février dans l'ensemble de la région, que ce soit Hazaredan, la capitale régionale, ou Saravan, par exemple, sur la frontière. Ce sont des mouvements sociaux de commerçants, de négociants, de contrebandiers en nombre extrêmement important dans la région, protestant contre la confiscation d'une rente qui, pour eux, est un rare moyen de survie dans la région, rente qui, par ailleurs, est tout à fait défendue par toute une part de l'intelligentsia iranienne actuelle, qui, soit dans la région, soit à Téhéran même, continue de dénoncer cette situation coloniale et donc l'espèce de situation de non-recours dans laquelle se trouvent nombre de Baloutches actuels, pour lesquels la contrebande internationale et celle de l'essence en particulier, revendue en territoire pakistanais, constitue sur un arrière-plan de sous-développement durable la seule ressource économique à peu près viable.
Justement, le président Hassan Rouhani a remis en mouvement un processus d'apaisement dans la région, abandonné sous son prédécesseur Ahmadinejad. Notamment, des femmes sunnites ont été nommées gouverneurs ces dernières années. Mais malheureusement, les exécutions de prisonniers politiques, elles, n'ont pas cessé. Percevez-vous dans ces conditions un risque de radicalisation d'une partie de la population baloutche, celle qui serait réticente à une certaine modernité ?
On fait face dans la région à un progrès tout à fait sensible, et on l'observe sur les réseaux sociaux en particulier, d'une certaine forme de salafisme radical. Le problème étant que dans les périodes pendant lesquelles l'Iran a été gouverné par les réformistes, donc sous Khatami, ou depuis l'élection de Rouhani en 2013, on a eu une approche des questions ethniques et confessionnelles dans la périphérie du pays qui était beaucoup plus orientée vers une négociation, et notamment cette promotion demandée dans la région, où on n'a pas véritablement affaire à une cause, à un mouvement indépendantiste, mais simplement à une demande davantage de moins de ségrégation économique et politique et de davantage d'égalité. Ce que les Baloutches comme les Kurdes à l'Ouest souhaitent aujourd'hui principalement, c'est de devenir des citoyens de plein droit d'une république égalitaire. On a eu, pendant les périodes où ces négociations entre Téhéran et sa périphérie connaissaient des difficultés, eh bien des pressions accrues, notamment des pressions accrues sur les religieux sunnites locaux qui ont pris en charge, pendant ces périodes de négociation avec Téhéran, sous Khatami, sous Rouhani, ont pris en charge justement cette option politique d'une négociation avec le centre. Lorsque cette négociation connaît, comme c'est le cas aujourd'hui, des difficultés, lorsque les concessions de Téhéran semblent marquer le pas, eh bien, on a une partie de la population locale, et en particulier de la jeunesse baloutche, qui tend à se détourner de ces grands notables sunnites qui jouent un peu le rôle aujourd'hui, depuis maintenant une vingtaine, une trentaine d'années, d'intermédiaires des baloutches auprès du pouvoir central. Donc la jeunesse aujourd'hui baloutche tente à se détourner de ces notables sunnites qui sont accusés aujourd'hui d'avoir collaboré avec le régime sans obtenir beaucoup de résultats, pour s'orienter vers des voies de contestation beaucoup plus radicales, attisées parfois par certains téléprédicateurs baloutches sunnites basés dans les Émirats arabes unis en particulier, dont les télévisions ou les chaînes YouTube sont aujourd'hui extrêmement écoutées dans la région. Donc il est tout à fait évident que les ratés que connaissent les négociations menées sous Khatami dans un premier temps au tournant des 20e et 21e siècles, puis sous Rouhani depuis 2013, les ratés que connaissent ces négociations débouchent parfois effectivement sur des mouvements de radicalisation que l'on observe pour le moment de manière principale dans les réseaux sociaux, avec un succès croissant dans la jeunesse baloutche en particulier de certaines positions salafistes radicales.
Justement, c'est peut-être pour aller contre ces expressions sur les réseaux sociaux que ces réseaux sociaux ont été ces dernières semaines bloqués par les Pasdaran dans la région.
Oui, il s'agit d'une politique plus ou moins récurrente et qu'on a observé à des moments extrêmement divers de l'histoire récente de l'Iran, et ça ne touche pas seulement les réseaux sociaux salafistes du sud-est ou de l'ouest de l'Iran, c'est vraiment quelque chose qu'on observe d'une manière générale. Il est tout à fait évident que le recul qu'ont connu les réformistes, que le recul qu'a connu Rouhani lui-même depuis les élections législatives du printemps dernier, se sont traduits par un raidissement général de la politique de Téhéran vis-à-vis de ses marges ethniques et confessionnelles, et en particulier du Sistan-Baloutchistan. Il faut quand même rappeler que l'actuel président du Parlement iranien, donc du Majlis, est un ancien général des Pasdar, dont l'approche des mouvements sociaux est connu comme essentiellement autoritaire. Et donc on observe depuis maintenant une année un tournant autoritaire dans la gestion par Téhéran des problèmes de la périphérie de l'Iran, qui semble annoncer un tournant plus durable, renforcé peut-être par les résultats de l'élection présidentielle du début de l'été, pour laquelle ce qui est annoncé par les observateurs et la victoire d'un candidat issu des gardiens de la Révolution. Ce qui, pour la société baloutche, serait certainement la plus mauvaise nouvelle possible.
Merci Stéphane Dudoignon.
Merci Eric Bataillon.
Historien de l'Asie centrale moderne et contemporaine, directeur de recherche au CNRS, membre du CETOBAC, le Centre d'études turques, ottomanes, balkaniques et d'Asie centrale. Merci. Orient Hebdo, mise en onde et réalisation Mathias Golchani. On se retrouve avec plaisir samedi prochain. Passez une bonne semaine, fidèle à la Radio Mondiale. Tout de suite, le journal.
En sol majeur.